Décryptage. Aurélien Devernois.
Bonsoir à toutes et à tous. Économie à l'arrêt pendant des mois, travailleurs confinés, avions cloués au sol, la crise du Covid a eu pour effet de réduire de près de 8% les émissions de CO2 en 2020. Un bon point pour la planète, mais les lendemains s'annoncent déjà difficiles. La crise économique a en effet poussé des pays à intensifier leur utilisation de charbon, par exemple. Les engagements pris lors de l'accord de Paris il y a 5 ans ne sont guère respectés et les entreprises polluantes encore moins inquiétées qu'habituellement. Le climat est-il pour autant le grand perdant de la crise du Covid, des prises de conscience et des opportunités ne peuvent-elles pas émerger de cette catastrophe mondiale? Des questions que nous nous posons ce soir dans Décryptage. Et pour essayer d'y voir plus clair, Mathieu Glachand est en notre compagnie. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste de l'environnement et professeur à Mines Paris Tech. Également avec nous par téléphone, Arnaud Schwartz, président de l'association France Nature Environnement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, l'actualité de ce lundi, c'est le One Planet Summit, 4e édition, organisé par Emmanuel Macron avec de nombreux chefs d'État et d'organisations internationales. Il y a été notamment question de la protection de la biodiversité que l'on sait menacée par les activités humaines et leur corollaire, le réchauffement climatique. Arnaud Schwartz, pour commencer, 2020, on l'a dit, a vu les émissions de CO2 baisser en raison de la crise du Covid. S'agit-il d'une baisse en trompe-l'œil malgré tout, même si, évidemment, toute amélioration est bonne à prendre?
C'est une baisse réelle. On verra quel rebond peut générer une reprise d'activité un peu plus normale au courant de cette année. Mais on verra aussi à quel point les personnes, les entreprises, les États, les collectivités auront changé leurs pratiques.
Alors, changer leurs pratiques, c'est-à-dire que vous pensez qu'il peut y avoir une prise de conscience avec tout ce qui s'est passé durant l'année écoulée, et notamment la possibilité de faire différemment par rapport au réchauffement climatique?
Tout à fait. C'est ce que j'ai pu constater aujourd'hui ici à l'Élysée pour le One Planet Summit, où on a fait le lien entre la biodiversité et le climat, avec des annonces financières, des actions qui sont prévues pour les années qui viennent. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans les plans de relance de différents États, que ce soit ici en Europe ou ailleurs dans le monde, qui intègrent très très clairement la nécessité de verdir notre économie, de faire en sorte qu'elle aide à atteindre les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique que l'on s'est fixé il y a 5 ans à peu près à Paris.
Alors, Mathieu Glachand, Arnaud Schwartz vient d'évoquer la question de la reprise économique qui s'annonce pour 2021, même si elle va être peut-être à petits pas parce qu'on n'est pas encore sorti de la crise. Est-ce que cette reprise économique va se faire, selon vous, au détriment du climat?
Au détriment du climat, c'est peut-être un peu fort. Ce qu'il y a, c'est que les fondamentaux économiques, ils ont été mis entre parenthèses pendant un an et demi, et puis ils vont recommencer à fonctionner comme ils fonctionnaient il y a un an et demi. Et donc, il peut y avoir une inflexion, mais partir dans un monde d'après très très différent, j'y crois pas tellement. Ce qui est décisif dans cette phase, ça va être le contenu des plans de relance, et on vient de l'évoquer, et on pourra en parler, mais quand on regarde les plans de relance, ils ne sont pas complètement verts aujourd'hui.
C'est-à-dire pas complètement vert. La France, par exemple, dit on va faire un plan de relance de 100 milliards d'euros, mais on va y consacrer un tiers de cette somme pour ce qu'on appelle la relance verte.
Est-ce qu'un tiers, c'est à la hauteur de l'enjeu? Si on parle d'urgence climatique, ça veut dire que 70 milliards vont être sur d'autres sujets. Et quel autre sujet? Sur des secteurs qui sont en détresse et qui peuvent être des secteurs qui ont un potentiel dans les émissions de carbone. Par exemple, on va aider le secteur aérien. Donc c'est aussi ça le problème, c'est qu'on est à la fois dans une logique de crise économique conjoncturelle où on relance tout ce qui peut être relancé parce que l'urgence du jour c'est le chômage, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, et en même temps on veut faire une inflexion sur une évolution lourde, structurelle. Ça sera mi-chèvre, mi-chou.
Alors Arnaud Schwartz, ce que dit Mathieu Glachand, c'est intéressant. Est-ce que finalement, on va pas être un petit peu contraint par l'urgence de la situation, en effet, de favoriser des secteurs assez polluants au détriment, eh bien, encore une fois, de l'environnement? Alors, on a perdu Arno Schwartz, je pense. On
va... Est-ce que, alors, c'est ce qu'on voit déjà un peu d'une certaine façon. On est obligé de faire avec l'existant. Donc, on part de là où on est et on essaye d'accompagner les personnes vers ce changement dont on a besoin. Évidemment, le monde d'après ne sera pas totalement différent dès le lendemain. C'est-à-dire que c'est des trajectoires, c'est des changements qui vont se faire progressivement. Alors, est-ce que le rythme sera suffisamment fort pour réagir de manière adéquate aux dérèglements qui vont s'imposer à nous, parce que le climat, lui, ne négocie pas. La biodiversité, une fois qu'elle a disparu, eh ben, on est là démunis et c'est notre assurance vie, ça, il faut le rappeler. Donc, je rejoins mon collègue dans son analyse. Mais il faut bien comprendre que le monde est bien complexe et on peut pas d'un claquement de doigts tout changer du jour au lendemain.
Alors, le monde est complexe, ça je l'entends bien. Néanmoins, le 31 décembre 2020, c'était la date limite du dépôt de ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées. Pour faire simple, c'est les nouveaux engagements climatiques censés être revus à la hausse des États signataires de l'accord de Paris. Sauf que ces contributions, seuls 70 des 194 États signataires les ont déposés. Dans quelle mesure ça annonce les prochaines années et les réels engagements des États dans la lutte contre le réchauffement climatique, Mathieu Glachan?
Bon, apparemment c'est quand même une mauvaise nouvelle, évidemment, hein, puisque la logique de l'accord de Paris, c'était de créer une dynamique, de se retrouver 5 ans après pour accélérer, parce que les engagements initiaux étaient clairement pas en phase avec l'objectif ultime qu'on a des 2 degrés, 1,5 degrés. Donc ça paraît être une mauvaise nouvelle. Mais moi, je vois une très très bonne nouvelle hein, qui date de septembre, octobre, qui est la déclaration de la Chine, qui s'est tout à coup engagée sur des objectifs qui sont très ambitieux à 2060, la neutralité carbone. Nous, notre engagement, les Européens, c'est 2050. Bon, ils sont un peu plus en retard, mais on peut pas trop leur reprocher. Ils ont des priorités économiques qui sont pas forcément les nôtres. Et puis, par ailleurs, ils ont annoncé un pic pour leurs émissions en 2030. Jamais la Chine n'avait pris des engagements de ce type. Donc, moi, à travers ce mouvement de la Chine, qui a été suivi d'ailleurs par des mouvements du Japon et d'autres pays, je vois une dynamique positive qui s'enclenche. Alors, peut-être que d'un point de vue administratif, ils n'ont pas réussi à remplir leur dossier pour le 31 décembre, mais je vois quelque chose de positif qui vient d'arriver.
Donc, vous voulez dire qu'il faut finalement voir le verre à moitié plein. Il y a des choses positif qui s'annonce, parce que si on prend le cas de la Chine, par exemple, la Chine a très fortement réaugmenté son utilisation du charbon ces derniers mois pour faire face à la crise du Covid.
Bon, d'abord, la Chine, c'est 30% des émissions, c'est-à-dire que c'est la somme des émissions de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Inde. Donc, quand la Chine fait quelque chose, c'est absolument majeur. La Chine prend des engagements à 2030, c'est un horizon temporel qui n'est pas si lointain que ça. Elle n'est pas trop en phase aujourd'hui avec ce qu'elle vient de dire. D'un autre côté, les Français, on n'est pas très en phase non plus. Le Conseil d'État vient d'ailleurs demander au gouvernement de justifier l'écart qu'il peut y avoir entre les moyens qu'il met sur la table et les engagements qu'il a pris. Moi, là, pour le coup, je vois vraiment le verre à moitié plein. Qu'à moitié plein, même.
Arno Schwartz, c'est vrai que la Chine fait un pas réel dans ses engagements. Si je me trompe pas, si la Chine arrive à atteindre sa neutralité carbone d'ici 2060, ça peut améliorer les augmentations de température d'environ un demi-degré à peu près, hein, c'est-à-dire que ça serait un demi-degré moins élevé que prévu. Ça aussi, c'est le verre à moitié plein, mais si on est à 3,5 degrés de plus, ça sera aussi le verre à moitié vide.
Bien sûr que le dérèglement climatique, dans tous les cas, il est problématique pour les espèces vivantes, humains y compris. Et on va avoir de gros soucis à l'avenir. Bon, ils seront plus ou moins insupportable ou insurmontable à mesure qu'on agira ou pas. Et la Chine, en changeant, si elle atteint ses objectifs, elle peut quand même nous éviter des souffrances majeures. Un demi-degré, c'est énorme.
Donc là aussi, il faut voir vraiment le positif dans ce que fait la Chine et ce qu'annonce le président Xi Jinping.
Ouais, tout à fait. On a besoin de positiver. Là, on est dans une époque où l'amorosité va prendre le dessus. Et ça, il faut à tout prix le combattre. On a besoin de se mettre dans une dynamique d'avenir. Et pour y arriver, il faut essayer aussi d'optimiser l'existant.
Alors, l'autre motif d'espoir, j'imagine, pour tous les deux, c'est le fait que les États-Unis devraient revenir dans l'accord de Paris et se fixer de nouveau des objectifs un minimum ambitieux dans la lutte contre le réchauffement climatique, Mathieu Glachan.
Oui, moi ça me semble être un point d'ailleurs moins important que le précédent. D'abord parce que les États-Unis c'est moins d'émissions, mais aussi parce que aux États-Unis il y a un clivage politique très important sur le changement climatique, que Biden va pas être au pouvoir pendant 50 ans et qu'il y a un mouvement de balancier, les républicains vont revenir. De toute façon, on aura toujours une politique américaine dans le futur prévisible qui sera un petit peu ambiguë sur le changement climatique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'avenir.
Alors, ce que vous dites, c'est que finalement, l'alternance démocratique s'oppose un petit peu aux politiques ambitieuses de lutte contre le réchauffement climatique?
En Europe, pas tellement, puisqu'il y a un consensus transpartisan sur le sujet. Mais aux États-Unis, ça n'est pas le cas. Il y a un climato-scepticisme qui, dans la société américaine, est très importante. C'est une démocratie, donc ce climato-scepticisme vient irriguer le champ politique. C'est la conséquence d'être une démocratie. Et en particulier, le Parti républicain. Le Parti républicain, si on est sur des échelles de temps qui ne sont pas les 4 prochaines années, hein, puisque sur ces sujets, il faut évidemment raisonner un peu plus à plus long terme, le Parti républicain reviendra au pouvoir. Et donc, du coup, freinera par rapport à ce que prévoit Biden. Et puis, les démocrates reviendront au pouvoir. Je pense qu'on va avoir, comme ça, dans les années qui viennent, les décennies qui viennent, on va continuer à jouer avec une certaine volatilité de la politique américaine en la matière.
Alors, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des mécanismes supranationaux, justement, pour forcer un petit peu la main à certains pays qui hésitent d'aller dans des trajectoires plus ambitieuses? Arnaud Schwartz, notamment, on a beaucoup parlé en 2020 du crime d'écocide et on a évoqué la possibilité de création de juridictions internationales pour juger les atteintes faites à l'environnement. C'est une idée qui devient plus envisageable aujourd'hui?
J'en suis pas certain parce que elle a un aspect très philosophique qu'on retrouve dans le droit de l'environnement de certains pays, mais pas grosso modo en Occident. Et d'autre part, quand bien même culturellement on voudrait se l'approprier et l'intégrer, derrière il faudrait encore arriver à démontrer l'intentionnalité des actes qui peuvent concourir à punir, à condamner des personnes de ce crime-là. Donc, en termes d'outils internationaux contraignants plutôt que ce crime d'écocide, on a peut-être besoin de rendre opposable, de rendre contraignant des accords type accord de Paris. Et intégrer ça dans les règles de commerce international notamment, ça me semblerait une piste plus fructueuse.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des pistes à explorer du côté des gendarmes financiers, en tout cas des institutions financières? L'autre sujet qui a été abordé en fin d'année 2020, c'était la question de la Banque Centrale Européenne, Mathieu Glachan, qui envisagerait, en tout cas il y a un débat au sein de la BCE, sur la question de l'achat d'obligations qu'elle fait chaque année. Je crois qu'elle a à peu près 250 milliards d'euros d'obligations dans son portefeuille et donc qu'elle pourrait favoriser l'achat d'obligations d'entreprises peu polluantes au détriment donc d'entreprises très polluantes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner ?
C'est quelque chose qui fonctionne déjà dans le secteur privé, puisque vous parlez de la Banque centrale, mais il y a déjà l'investissement, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, ça existe depuis 20 ans, avec des produits financiers qui récompensent des entreprises moins polluantes, etc. Et il y a des fonds spécialisés climat, donc ça existe déjà dans le monde financier. Ce qu'on en dit, c'est que les primes qui sont offertes à ces entreprises qui sont dans ces produits-là et qui seraient par exemple concernés du coup par une politique d'achat sélective de la Banque européenne, les bénéfices ne sont pas très très importants. Je suis pas sûr que ce soit le marché du capital et du crédit qui soit le levier majeur d'évolution de notre système capitaliste. Je pense même que c'est plutôt là qu'on va trouver des résistances. Donc, bon, ça mange pas de pain, mais ça me paraît pas être l'essentiel.
Alors, il faudrait aller dans quelle direction, justement, pour peut-être toucher davantage au portefeuille et donc inciter davantage à faire attention à l'environnement?
Donc il faut distinguer deux choses. Il y a les politiques nationales, et là il y a toute une gamme d'outils qui me paraissent plus importants. C'est un gros mot, mais parlons-en. La fiscalité sur le carbone, c'est-à-dire les actions sur le prix de l'énergie, parce que le fond de l'affaire quand même, c'est ça. C'est qu'en consommant de l'énergie, on émet du carbone. Les politiques de subvention d'aide publique telles qu'elles sont présentes dans les plans de relance, les réglementations qui existent sur le marché de l'automobile, etc. Donc il y a toutes ces politiques nationales. Et je voudrais revenir sur les outils aussi pour influencer la dynamique internationale, qui est à mon avis la question majeure. Je trouve qu'en 2020, ce qu'il y a eu aussi, c'est cette discussion sur la taxation carbone aux frontières. Donc, cette idée d'aller pénaliser, donc c'est des politiques unilatérales, non pas négociées internationalement, c'est des politiques unilatérales, et l'Europe veut se doter de ce genre d'outils qui visent à pénaliser des gens qui exporteraient vers nous des produits qui ont été produits avec beaucoup trop de carbone, ou de pays qui ne respectent pas, par exemple, des engagements de l'accord de Paris. Moi, je trouve que ça, c'est un outil qui me semble très important.
Arnaud Schwartz, vous en pensez quoi?
Ouais, je là dans l'analyse, on est d'accord. Pour tirer tout le monde vers le haut, il faut les encourager à faire les mêmes efforts que nous, et donc pour entrer en concurrence, pour travailler sur notre marché à nous, ben il faut équilibrer la balance aux frontières. Et d'ailleurs, on a besoin de ce dispositif aussi en matière d'économie circulaire, parce que si on veut rendre les choses viable pour la biodiversité, l'extraction des ressources, etc. Si on veut ça, on a besoin que la matière première ou la matière recyclée qui vient de l'étranger sur le territoire européen coûte pas moins cher que ce que on fait ici en termes de recyclage. Sinon, nos boucles, elles iront jamais au-delà des à peu près 10% où elles se trouvent aujourd'hui. On recycle même pas 10% de la matière.
Donc, il faut finalement essayer d'enclencher région par région, finalement, des cercles vertueux, par exemple sur le recyclage, comme vous le dites, pour essayer d'arriver finalement à un élan planétaire.
C'est ça, avec des équilibrages aux frontières, pour expliquer aux autres que s'ils veulent commercer avec nous, il faut aussi que eux, dans leur pays, ils fassent des efforts environnementaux ou sociaux et que la concurrence soit à l'avenir moins faussée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour l'instant, on est dans le moins-disant social et environnemental, et le but, c'est d'aller vers le haut, tous vers une économie qui soit circulaire, carboneutre, respectueuse de la biodiversité, qui nous offre un monde vivable.
Alors, il nous reste une petite minute trente, je vais vous demander d'être assez concis, ça passe vite, je sais. Pour revenir au Covid, il y a quand même la preuve que les différents États sont quand même capables de travailler relativement ensemble pour apporter des réponses communes. Est-ce que il n'y aurait pas matière à prendre exemple sur ces réponses face au Covid par rapport à l'environnement, et notamment se fixer des objectifs de réduction des émissions qui seraient moins lointains que les 10, 20 ou 30 ans qui sont aujourd'hui existants? Alors on va commencer avec Arnaud Schwartz, 30 secondes, et puis Mathieu Glachon, pour terminer.
Oui, pour arriver à atteindre des objectifs lointains, il faut d'abord savoir se fixer des étapes intermédiaires à court et moyen terme.
Et court et moyen terme, c'est quoi? C'est 4, 5 ans au lieu des 10 ans aujourd'hui?
Oui, on peut aller sur ces horizons de temps-là avec des indicateurs, des outils de suivi pour pouvoir très rapidement infléchir la courbe.
Mathieu Glachon.
C'est les objectifs de court terme existent déjà. Ils ont été fixés en France, mais dans plein d'autres pays. Donc, moi, ce que je vois, c'est la dynamique européenne. Elle a été assez belle pendant cette crise du Covid. Or, l'Europe peut être un moteur important dans cette dynamique mondiale. Et donc, moi, je vois là derrière une note d'espoir. On a été finalement assez positif et optimiste ce soir, je trouve.
Eh bien, écoutez, ça change, je vais vous avouer. Merci beaucoup, Mathieu Glachon. Merci, Arnaud Schwartz. Et merci d'avoir écouté Décryptage.